Canal Académie. L'entretien de la semaine.
Comment devient-on un champion paralympique? Beaucoup d'entraînement bien sûr et un mental de fer, jusque-là rien de nouveau, mais la capacité d'adaptation du cerveau joue aussi un rôle fondamental pour s'approprier des technologies de substitution comme les prothèses ou pour affiner d'autres fonctions de notre corps humain. Le handicap n'est pas nécessairement un frein à la performance, les Jeux paralympiques 2024 l'ont démontré avec des athlètes capables de repousser leurs limites par l'intelligence de leur corps. Vous écoutez L'envie de savoir, l'émission de culture générale de l'Institut de France. Chaque semaine, des académiciens nous transmettent un bout de savoir tiré de leur spécialité. Et cette semaine, je suis en compagnie d'Alain Berthoz. Bonjour à vous. Et merci, merci d'être dans notre studio d'enregistrement. Alain Berthoz, vous êtes neurophysiologiste, membre de l'Académie des sciences, et vous organisez avec Antoine Triller, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et avec l'Académie des sciences, une journée dédiée au handicap et au sport, le mardi 1er octobre prochain, un colloque qui s'intitule « Handicap, sport et sciences du mouvement ». C'est un colloque ouvert à tous, qui se déroulera à l'Institut de France à Paris, dans le 6e arrondissement. Mais avant de parler du colloque, Alain Berthoz, je vous ai présenté comme un neurophysiologiste. Alors, on situe à peu près un neurologue, un neurochirurgien. Un peu moins, le neurophysiologiste, qu'est-ce que c'est ?
Mais c'est quelqu'un qui essaye de comprendre l'organisation du système nerveux dans toutes ses dimensions pour à la fois percevoir le monde, agir pour la mémoire, l'émotion. Donc on essaye de comprendre comment le cerveau et avec le corps, bien sûr, le cerveau-corps, le corps-cerveau, comment tout cela fonctionne pour aussi nous permettre de penser et de parler.
Et c'est justement au programme de ce colloque, on va y trouver des conférences sur des thèmes très variés, par exemple sur la plasticité cérébrale, sur les dernières générations de prothèses, les neuroprothèses, et même une table ronde sur les mystères du membre fantôme. En fait, ce dont on va discuter au cours de cette journée, c'est de la formidable capacité d'adaptation, de compensation du corps humain lorsqu'il est en situation de handicap. C'est ce qui va être mis en avant lors de cette journée, c'est ça ?
Oui, d'abord je voudrais remercier Canal Académie de nous avoir invités avec Antoine Triller, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, pour présenter ce colloque. Ce colloque, il a été créé sur l'initiative et dans les locaux, comme vous l'avez rappelé, de l'Académie des sciences, mais il est en partenariat avec l'Académie de médecine et l'Académie des technologies, ainsi qu'avec l'INSEP, qui, comme vous le savez, est le grand établissement qui forme les athlètes de haut niveau. Je voudrais aussi remercier le comité d'organisation parce que nous avons fait ce programme avec un certain nombre d'académiciens et des gens de différentes disciplines. Et puis le comité d'organisation, c'est-à-dire tous les gens qui participent à cette aventure, puisque le handicap sensoriel et moteur, c'est un grand problème de société, n'est-ce pas ? C'est un domaine immense. On ne peut pas en parler en une seule journée. Donc nous avons dû choisir, puisqu'il concerne aussi bien les troubles du mouvement que des fonctions cognitives. Mmh. Alors, les Jeux, comme vous l'avez rappelé aussi, les Jeux paralympiques ont montré la façon incroyable dans laquelle les athlètes en situation de handicap peuvent réaliser des performances, d'ailleurs avec ou sans dispositifs technologiques et avec ou sans accompagnants. Et en particulier, ce qui est tout à fait étonnant pour les scientifiques, pour nous, c'est cette capacité de s'approprier les prothèses, orthèses, exosquelettes, les fauteuils aussi, et de les intégrer en quelque sorte à leur corps, à ce que les neurologues et les psychologues appellent le schéma corporel. Finalement, ils en font une partie d'eux-mêmes. Ils les intègrent complètement. Ils ont ainsi été, au fond, capables d'utiliser les grandes propriétés du cerveau, que nous essayons aussi de comprendre dans la science, c'est-à-dire la plasticité, l'adaptabilité, etc., et ce que j'appelle la vicariance.
Alors, vous êtes derrière ce concept-là de vicariance. Est-ce que vous pourriez l'expliquer? Parce que je pense que les auditeurs ne connaissent pas.
Je suis derrière. Non, c'est un livre que j'ai publié chez Odile Jacob, mais c'est un concept qui a déjà été utilisé dans beaucoup de domaines et qui signifie le fait que notre cerveau nous donne la capacité de faire la même chose, disons, mais de différentes façons. Vous pouvez vous rappeler votre chemin pour aller de chez vous jusqu'à votre bureau ou jusqu'à votre lieu de vacances de différentes façons. Vous pouvez inventer toute une série de méthodes très différentes. Et c'est cette capacité-là qu'utilisent ces athlètes lorsqu'ils doivent, n'ayant plus certaines fonctions, en inventer d'autres, finalement créer d'autres façons de le faire.
On peut peut-être donner un exemple d'ailleurs, dans le cas d'une personne qui perdrait son bras, qui serait amputée, son autre bras va compenser et aura une capacité accrue de coordination pour compenser ce manque.
Oui,
c'est ça ?
Oui, mais non seulement ça, mais il va réinventer, surtout s'il a par exemple une prothèse, une nouvelle façon d'adapter sa posture, de nouvelles stratégies. Et ce qui est tout à fait passionnant sur le plan scientifique, c'est que pour inventer ces nouvelles façons de tenir compte des déficiences ou de l'absence d'un membre, par exemple, il faut inhiber ce qu'on a déjà appris. C'est ce que notre confrère de l'Académie des sciences morales et politiques, Olivier Audet, appelle l'inhibition.
On l'a reçu il y a quelques semaines, d'ailleurs.
J'ai aussi publié sur ce sujet, et que moi j'ai appelé ça l'inhibition créatrice. C'est-à-dire que pour remplacer les méthodes que l'on a apprises ou qui sont innées par de nouvelles méthodes, il faut inhiber, et c'est un des grands principes d'ailleurs de l'éducation en général, de l'innovation. Et c'est pour cela que l'étude du handicap, pour nous, est importante parce qu'au fond, elle nous renseigne aussi sur la physiologie normale. C'est-à-dire que c'est une façon très intéressante de détecter, de comprendre la façon dont réellement nous accomplissons dans la vie de tous les jours et avec des corps normaux toutes ces actions et ces projets que nous avons pour vivre. C'est là l'exceptionnelle démonstration de ce qu'on appelle le handisport. Hein, c'est cette discipline qui nous a questionnés. Alors, il faut comprendre en même temps comment construire des technologies, parce que adapter vraiment une prothèse, une orthèse, un squelette, un fauteuil.
Une orthèse, qu'est-ce que c'est ?
Ça complète, si vous voulez. L'exosquelette, c'est un squelette extérieur, l'orthèse complète et la prothèse remplace. Pour adapter ces technologies, il faut à la fois qu'elles soient faciles d'emploi, ce qui est très très difficile et on n'est pas encore totalement capable de produire des technologies parfaites, mais en même temps, il faut que, disons, le langage de la machine ou de l'outil nouveau corresponde au langage du cerveau. Donc il faut adapter des dialogues entre ces outils et le cerveau.
Et alors, vous parlez aussi dans ce colloque des neuroprothèses. Alors, les gens, les auditeurs imaginent très bien les prothèses. Qu'est-ce qu'une neuroprothèse ? Est-ce que, par exemple, une main bionique, c'est une neuroprothèse ? Comment ça fonctionne ?
On a deux extrêmes, si vous voulez. On peut adapter soit un membre existant, une machine, en quelque sorte, qu'on fait contrôler, soit par un robot ou automatiquement, soit on peut carrément aller dans le cerveau et implanter, comme vous le savez, des électrodes qui vont activer les neurones, qui vont remplacer éventuellement ceux qui ont disparu parce que la personne n'avait plus le membre. On peut en même temps remplacer les informations sensorielles données, par exemple, par les pieds chez quelqu'un qui n'a plus la sensation tactile des pieds. On peut la remplacer par des vibrations dans le dos. Ainsi, il y a toute une série de méthodes très différentes qui permettent d'établir ces dialogues entre les machines et le cerveau.
Au cours de ce colloque, vous allez faire intervenir deux athlètes. qui participeront à la conférence suivante, conférence qui s'intitule « La compensation du handicap par ceux qui le vivent ». Alors, on imagine très bien les outils visibles qui peuvent servir à cette compensation. Quand on est en situation de handicap, vous en avez déjà parlé, les prothèses par exemple. Mais il y a toute une partie invisible qu'on ne voit pas, qui est la pièce fondamentale de toute cette compensation, c'est le cerveau. Vous en avez un petit peu parlé déjà tout à l'heure. Mais ce colloque met véritablement en avant les pouvoirs de la plasticité cérébrale. Est-ce que vous pourriez revenir dessus ?
Alors oui, nous avons souhaité que soient présents dans ce colloque des champions paralympiques. Et David Smetanin et Stéphane Houdet, qui sont de très grands champions paralympiques, oui, seront là.
Le premier est champion paralympique de natation et Stéphane Houdet
de tennis en fauteuil. Parafauteuil. Et nous avons aussi la chance d'avoir l'intervention de Laetitia Bernard, qui à la fois est une championne et qui est journaliste et qui nous donnera aussi un témoignage très important. Nous avons voulu avoir ces témoignages au début du colloque parce que, en plus de toutes les descriptions scientifiques que les experts vont donner sur les différents sujets, que ce soit l'aspect technologique, que ce soit la plasticité cérébrale, etc., nous pensons que ces champions peuvent nous donner un témoignage sur le vécu, c'est-à-dire la façon dont réellement ils interprètent leur capacité à faire ces performances extraordinaires, comment ils eux-mêmes, puisqu'ils ont tellement travaillé pour arriver à ces exploits, comment ils peuvent décrire avec leurs mots ces processus. Et nous pensons que ce type de témoignage fait partie d'une certaine façon de la démarche scientifique, puisqu'elle permettra éventuellement de poser les problèmes et les questions d'une façon nouvelle. Et c'est un début de ce colloque, puisqu'en une journée, on ne peut pas faire un bilan général d'un domaine aussi grand, mais un début du colloque est justement de déboucher sur des idées, des projets nouveaux, peut-être des interfaces nouvelles entre les disciplines, puisque nous sommes convaincus que c'est aux frontières entre technologie, médecine, biologie et sociologie même, qu'on va pouvoir résoudre et améliorer les problèmes qui sont posés aux personnes en situation de handicap.
Et pour revenir sur la participation de ces deux athlètes, certes, c'est important d'observer ce qui se passe dans le cerveau de ces champions-là, mais recueillir leurs paroles, leurs témoignages, c'est ce que vous disiez,
c'est
tout aussi important pour faire progresser la science aussi et toujours. Il y a aussi une autre conférence qui sera proposée lors de ce colloque, une conférence qui s'intéresse au mystère des membres fantômes. Alors, ça aussi, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'un membre fantôme ?
Le phénomène est très simple. Une personne a un bras qui est coupé, ou une jambe qui est coupée lors d'un accident de voiture, de moto, ou autre. Et malgré l'absence de ce membre, eh bien, la personne perçoit le membre comme s'il était vraiment là. Non seulement elle perçoit la présence du membre, mais même elle le voit en train de bouger. Une de mes amies neurophysiologistes finlandaises avait trouvé l'exemple d'une dame à qui il manquait un bras et qui se présentait à la caisse du supermarché et elle avait l'impression qu'elle tenait un panier au bout de son bras. Elle était très gênée parce qu'en fait, elle n'avait rien du tout. Donc, la question scientifique qui est posée, c'est comment le cerveau peut-il construire ou reconstruire ce membre. Et cela est dû, maintenant on le sait mieux, à l'existence dans notre cerveau de ce que on appelle dans un jargon scientifique des modèles internes, mais aussi en quelque sorte des doubles de nous-mêmes. Nous avons dans certaines parties du cerveau des réseaux de neurones qui d'une certaine façon reproduisent complètement notre corps, un corps virtuel. Et cela a été aussi mis en évidence dont d'autres paradigmes avec des noms un peu poétiques, comme le paradigme de la main de caoutchouc. Par exemple, si vous cachez un des membres sur une table, une des mains, et que vous la cachez, le sujet ne la voit plus, vous mettez devant lui une main en caoutchouc, et vous touchez en même temps la vraie main qui est cachée et la main de caoutchouc. Au bout de très peu de temps, le sujet va pouvoir percevoir la main de caoutchouc comme étant sa main. C'est-à-dire, nous avons dans notre cerveau des réseaux de neurones qui simulent soit des parties du corps, soit le corps entier. Et ce qui est important par rapport à la question des athlètes de haut niveau ou de façon générale du handicap et de la capacité d'utiliser des prothèses ou de faire ses exploits, c'est que tout ça se passe éventuellement dans le cerveau, sur ces modèles, en quelque sorte, du corps. C'est-à-dire que les athlètes qui arrivent à faire ces performances lorsqu'il leur manque un membre, le font grâce à une réorganisation, à un travail qui est fait dans leur cerveau sur ces représentations mentales des membres. Voilà pourquoi le membre fantôme fait aussi partie, effectivement, de la problématique de la récupération fonctionnelle des personnes en situation de handicap.
Alors, parfois, donc, quand on perd ce membre, on peut être amené à donc mettre une prothèse. Le cerveau est capable de s'approprier les technologies de compensation comme une partie de soi. Toutes ces technologies dont on parle, elles évoluent quand même de plus en plus vite. Est-ce qu'on n'aurait pas passé un cap quand même dans l'évolution humaine, dans l'augmentation corporelle notamment, où là, on parlerait plus seulement de l'homme réparé, mais de l'homme augmenté, carrément?
Oui, ça fait partie d'un grand débat important actuellement qui rejoint un autre débat, cette fois philosophique et fondamental, qui est celui de l'identité. Pour être plus concret et rester dans le cadre de notre colloque, parce que c'est un sujet sur lequel on peut...
Vaste sujet.
Par exemple, il semblerait qu'un certain nombre de personnes amputées de la jambe, qui ont bénéficié d'une prothèse de jambe, est au bout d'un certain temps refusé de la porter. C'est-à-dire qu'il y a un problème tout à fait intéressant qui n'est pas seulement un problème physiologique, moteur, sensorimoteur, mais qui est un problème d'intégration dans sa personnalité. Et on a, dans un autre domaine proche, qui est celui des interfaces cerveau-machine. Vous savez, quand on essaye de mettre une main robotisée puis qu'on la commande avec des électrodes implantées dans le cerveau, on a eu un exemple d'une personne américaine, d'ailleurs, qui avait été implantée comme cela avec des électrodes dans son cerveau qui commandait avec succès une main artificielle et qui, au bout d'un moment, a demandé qu'on lui enlève les électrodes parce qu'il avait l'impression que, finalement, ce n'était pas vraiment lui. C'est-à-dire qu'il était un peu comme un schizophrène, c'est-à-dire qu'il n'avait pas réussi vraiment à intégrer la technologie au soi. Donc, c'est un grand sujet intéressant qui fait partie des réflexions qu'on va peut-être aborder rapidement dans ce colloque, mais on ne peut pas parler de tout.
La situation de handicap n'empêche pas de performer. Vous avez peut-être vu, Alain Berthoz, cette pub Orange qui a été largement diffusée pendant les Jeux Olympiques cet été, les Jeux Paralympiques. C'est une pub qui montre de vraies images de para-athlètes qui performent mieux que des champions valides. Handicap et performance, les termes ne sont pas antinomiques. Vous êtes d'accord avec ça ?
Moi, je n'ai pas à être d'accord. C'est un fait. Et c'est un fait. Et même, j'ai lu récemment le témoignage des champions paralympiques qui a écrit. Donc, c'est pour ça que je vais pas citer son nom, mais je peux me permettre de citer ce qu'il a dit. Qui a dit finalement, je suis content d'être dans cette situation parce que lorsque j'avais encore mes membres, je n'aurais pas pu être sans doute champion olympique. Et donc, on peut trouver effectivement toutes les opinions et tous les vécus dans cette affaire.
Et dans le programme, vous dites aussi dans la présentation, vous soulignez l'importance des dimensions psychosociales pour performer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
On a bien vu dans l'exemple des Jeux paralympiques à quel point l'accompagnement, la formation, l'encadrement, la motivation, l'émotion, l'amour, on peut dire, jouaient un rôle important. Vous savez, ce nageur brésilien qui n'avait pas d'orthèse ou de prothèse, mais qui n'avait pas de bras et de jambes, qui était né comme ça, il était capable non seulement de gagner une médaille paralympique, mais en même temps, il était capable de faire plein de choses dans la vie. Il pouvait manger, il pouvait envoyer des messages. Et ça, il y a eu un très joli petit film qui a montré, c'était dû apparemment au fait que sa mère, lorsqu'il est né, a voulu le garder, le rester, et lui a donné des responsabilités pour qu'il se débrouille. Et il l'a encouragé, elle l'a valorisé, elle lui a donné cette confiance, visiblement, dans la capacité de réaliser des choses qui a été si importante. Donc, oui, il y a des dimensions, encore une fois, que nous n'aurons pas le temps, pendant le colloque, d'explorer complètement, mais qu'il était important d'évoquer. Et encore une fois, je précise que le but de ce colloque, c'est d'aboutir à des questionnements, d'aboutir à des pistes nouvelles. Et c'est aussi pour ça que nous sommes heureux d'accueillir, autour de l'heure du déjeuner, des lycéens et qui vont venir et qui ont participé à un projet, je voudrais le mentionner, et qui a été appelé Made in 3D, un peu franglais. Alors, c'est un projet qui a impliqué plus de 300 lycéens de 150 lycées et qui, grâce à une coopération entre l'Académie des sciences et la main à la pâte, et avec le partenariat avec Dassault, qui a lancé un concours d'idées et de réalisations concrètes auprès des lycéens pour réaliser des choses qui pourraient être utiles pour les personnes en situation de handicap en général. Et donc, il y aura quelques-uns de ces jeunes lycéens qui vont, pendant un petit moment, venir présenter et parler
leur proposition.
Et là aussi, c'est un petit peu l'idée du colloque. C'est pas seulement, si vous voulez, d'en faire une réunion de scientifiques qui vont discuter forcément sérieusement de tout leur domaine, mais en même temps d'avoir le témoignage des champions et en même temps des témoignages de ces jeunes lycéens qui représentent l'avenir et dans une opération qui a certainement été faite pour les intéresser à ça. Et c'est ça qui est un des buts du colloque, c'est d'intéresser aussi bien les jeunes que les vieux, les spécialistes que les non-spécialistes.
Car je le répète, il est ouvert à tous et tout le monde peut venir. On mettra tous les liens dans la description de l'émission. J'avais une dernière question, Alain Berthoz, sur la perception du corps handicapé. On dit que les Jeux paralympiques de cet été auront un effet durable sur la perception qu'on a du handicap pour que ce corps soit plus visible, moins tabou. Vulgariser, ouvrir la science, la connaissance sur ce sujet au grand public, ça aussi c'est indispensable pour poursuivre et accomplir ce changement de regard. Et ce colloque tend à participer à ce changement aussi.
Tout à fait. Tout petit mot sur ce domaine si vaste qui est celui du sport.
Oui.
Mais le sport finalement, il y a beaucoup de discussions du sport, mais c'est un petit peu la partie émergée, on pourrait dire, de tout ce qui est capable de faire une personne en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on a là un domaine extrêmement intéressant. Aussi, nous discutons beaucoup et nous sommes très enrichis dans les démarches scientifiques par le dialogue avec les neurologues, avec les médecins, avec les psychiatres. Eh bien, le dialogue de cette façon avec les sportifs en général et avec les personnes en situation de handicap sportif est aussi un enrichissement pour progresser dans notre démarche qui est faite avec modestie mais avec une certaine audace, voilà.
Un grand merci, Alain Berthoz. Handicap, sport et sciences du mouvement, c'est le nom de ce colloque que vous co-organisez. Il aura lieu, je le répète, le mardi 1er octobre prochain, à partir de 9h du matin, dans l'auditorium de l'Institut de France, pour toute la journée. L'inscription est gratuite, il faut juste s'inscrire en ligne. On mettra tous les liens sur la page de l'émission. Merci beaucoup.
Merci.
Canal Académie.